Bienvenue chez Daily Basic. Ici, tu trouveras chaque jour une réflexion spirituelle. Elle t'accompagnera tout au long de ta journée, quoi qu'elle te réserve. C'est faux de dire qu'un roi est au-dessus des lois. Pas du tout. Un roi n'est pas non plus au-dessus de ce qu'il ne faut pas faire. Un roi n'est donc pas non plus au-dessus de la morale de son peuple. Il est lié aux deux. Il en a toujours été ainsi. Edwards en est un exemple concret. En raison de ses liens avec Epstein, il ne fait pas seulement l'objet de poursuites pénales. Sa réputation est également ruinée car il a fait quelque chose qu'on ne fait tout ensemble pas. La morale et la loi sont liées. Les violations de la loi sont punies. Les violations de la morale aussi, notamment par le mépris. Edwards doit actuellement endurer les deux. Il ne reviendra pas. Il faudrait pour cela qu'il fasse preuve de lucidité et de repentir. Or, ces deux éléments lui font cruellement défaut. Un roi n'est pas au-dessus de ces deux choses. Cela vaut également pour le roi de Washington, même s'il ne veut pas le voir ainsi. Cela valait aussi pour le plus grand roi que le peuple d'Israël ait jamais eu, David. Lorsque le faveur de Dieu vous a propulsé vers les sommets de la hiérarchie, cela peut vous monter à la tête et vous faire croire que vous êtes libre de tout faire au mépris de la loi et de la morale, pour que ni l'une ni l'autre ne soient bafoués, et ce par personne, pas même un roi, il existe des défenseurs. Et ce sont les prophètes. Ils étaient les gardiens de la loi de Dieu. Pour David, c'était le prophète Nathan. Il accompagnait la politique de David et un jour, il dut lui faire la leçon. David avait en effet enfreint la loi et la morale. Il avait pris la femme d'un autre homme. Voici comment cela s'est passé. Je lis dans le premier livre de Samuel, chapitre 11. Il arriva que David se leva de son lit vers le soir et se promena sur le toit de la maison royale. De là, il vit une femme qui se lavait. Et cette femme était très belle. David envoya quelqu'un pour s'enquérir de cette femme et on lui répondit, « C'est Bathsheba, la fille d'Éliam. » La femme d'Urie le Hédien, et David la fit venir. Et quand elle vint vers lui, il coucha avec elle, or elle venait de se purifier de son impureté. Puis elle retourna chez elle. Voilà, cette aventure d'un soir eut des conséquences. Bathsheba tomba enceinte. David avait un plan. Il fit venir Urie et lui accorda une permission de retour au pays. En couchant avec sa femme, David voulait empêcher qu'il ne soit considéré comme le père. Mais c'était bien sûr une absurdité car Bathsheba était tombée enceinte alors que son mari, un étranger au service de l'armée de David, combattait au front. Urie accepta l'offre de David mais dormit dehors. C'était là. Coutume pour les hommes en mission. En effet, s'ils venaient à être tués, leur femme serait certes veuve, mais n'aurait pas à s'inquiéter pour un enfant de plus. David la prit. Il ne lui restait plus d'autre choix que de se débarrasser d'Uri. Il ordonna qu'on l'envoie en première ligne, ce qui entraîna rapidement sa mort. David prit Bathsheba, alors enceinte dans son harem. Le plan de David avait certes fonctionné, mais Nathan n'était pas resté dans l'ignorance. Il lui fit la leçon. Son verdict, David ne mourra pas, mais le fils que Bathsheba a mis au monde mourra. David ne pouvait rien y faire. Le deuxième fils que Bathsheba mit au monde s'appelait Salomon. Il fut élevé par Nathan et devint le troisième roi d'Israël après Saül et David. Et c'est Salomon qui fit construire le premier temple à Jérusalem. La faute de David avait certes été expiée selon la loi, mais moralement, elle la tourmenta toute sa vie. Même à la fin, il déclara encore, j'ai gravement péché en faisant cela. Et maintenant, ô Dieu, enlève la faute de ton serviteur. Deuxième Samuel, chapitre 24, 10. C'est tout pour aujourd'hui. À demain et prends soin de toi.